Bonjour, au micro Idrissa Seydoudia, Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine ont vanté hier leurs échanges constructifs lors d'un sommet à Genève, affichant leur volonté d'apaiser les tensions tout en restant avares en annonces concrètes. Nous y reviendrons avec Jacques Aristide et Jean-Roger Bion. En Afrique, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo rentre aujourd'hui en Côte d'Ivoire après une absence de 10 ans. Michel Joseph et Abdourahmane Dia feront le point. Côte d'Ivoire toujours, la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté nationale a été requise hier devant le tribunal criminel d'Abidjan contre l'ex-premier ministre ivoirien en exil, Guillaume Soro, accusé de complot contre le pouvoir et jugé en même temps que 19 de ses partisans. Le Sénégal vient de recevoir son premier bateau usine, lui permettant de réceptionner en mer plutôt qu'à terre du gaz d'importation liquéfié et de le ramener à l'état gaz pour produire de l'électricité à moindre coût financier et environnemental, ont annoncé ce mercredi les partenaires du projet. Le groupe djihadiste nigérien Boko Haram a confirmé la mort de son leader historique Aboubakar Shekau, mort lors de combats avec le groupe rival État islamique en Afrique de l'Ouest, a annoncé Bakoura Modou di Shahaba, le nouveau chef présumé, dans une vidéo envoyée mercredi à l'AFP par des sources vérifiées. L'ONG Human Rights Watch a appelé les autorités mozambicaines à révéler de toute urgence où se trouve le journaliste rwandais Cassien Ntamuhunga, opposant au régime du président rwandais Paul Kagame arrêté fin mai. Selon des sources policières et associatives au Mozambique, Ntamuhunga a été arrêté le 23 mai et remis à l'ambassade du Rwanda à Maputo. Les autorités le démentent. Par ailleurs, selon une enquête menée par une ONG locale, des détenus de la plus grande prison mozambicaine pour femmes sont régulièrement forcés par des gardiens à se prostituer pour des passes facturées entre 40 et 200 euros. La ministre de la Justice a annoncé l'ouverture d'une enquête. En Éthiopie, au dernier jour de la campagne des élections législatives et régionales du 21 juin, le premier ministre Abiy Ahmed a martelé hier sa vision d'une Éthiopie unie, puissante et rayonnante, loin de la guerre et des violences communautaires qui minent le pays. L'Afrique du Sud, plus de 58 000 décès pour près de 1,8 million de cas et qui fait face à une troisième vague de COVID-19, a enregistré hier plus de 13 000 nouveaux cas, soit le nombre de nouvelles infections le plus élevé en 24 heures ces 5 derniers mois, selon les statistiques officielles. L'ambiance sur le front du virus est à l'embellie dans l'Union européenne, qui rouvre ses portes aux touristes américains et où la France s'apprête à faire tomber le masque en extérieur, alors qu'à Moscou, face à une situation dramatique, la vaccination devient obligatoire pour une partie de la population. Les Iraniens sont appelés à choisir un nouveau président demain. L'élection semble jouée d'avance et devrait consacrer la mainmise des conservateurs sur le pouvoir à la faveur d'une abstention peut-être record. Dans un rare moment d'union, républicains et démocrates américains ont approuvé ce mercredi au Congrès la création d'un nouveau jour férié fédéral, le Juneteenth, contraction de juin et 19 en anglais, pour commémorer l'émancipation des derniers esclaves au Texas en 1865. On s'attend à la promulgation de la loi par le président Joe Biden. La première mission habitée envoyée par la Chine vers sa station spatiale en construction a décollé ce jeudi avec 3 astronautes à bord. L'astronaute français Thomas Pesquet a regagné sans encombre hier l'intérieur de la Station spatiale internationale après sa 3e sortie dans l'espace qui a duré plus de 7 heures mais a été troublée par plusieurs contretemps n'ayant pas permis d'accomplir jusqu'au bout la mission fixée. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC. suite de nos informations, la force française Barkhane a arrêté au Mali un homme qu'elle présente comme un cadre du groupe État islamique au Grand Sahara, selon l'état-major des armées françaises. Des détails avec Claire Moret-Gibourg.
L'arrestation a eu lieu le 11 juin dans la zone des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Portant une arme automatique, une lunette de vision nocturne, un gilet de combat, un téléphone et une radio, Dadi Ould Chouaïb, alias Abou Dardar, s'est rendu sans résistance, selon l'état-major français. Il avait été repéré par un hélicoptère au cours d'une opération conjointe de Barkhane et des forces armées nigériennes. Abou Dardar est un cadre du groupe État islamique au Grand Sahara, selon l'armée française. Il est également suspecté d'avoir mutilé trois hommes le 2 mai dernier lors du marché hebdomadaire de Tinama. Présentés comme des voleurs, les trois hommes ont eu la main droite et le pied gauche coupés. Cet ancien membre du Mujaho, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, avait été arrêté une première fois en 2014 et remis aux autorités maliennes. Mais il faisait partie des 200 djihadistes libérés en octobre 2020 en échange de quatre otages, dont la française Sophie Pétronin.
Dans le quartier populaire de Yopougon à Abidjan, certains habitants comptent les heures avant le retour aujourd'hui de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo après 10 ans d'absence. Le point avec Michel Joseph.
Il n'y a qu'un seul sujet à Yopougon, ce quartier pro-Gbagbo. C'est le retour du président. Celui qui a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 10 ans, jusqu'en 2011, doit atterrir aujourd'hui à 15h45, heure locale et GMT, par un vol commercial venant de Bruxelles. Yopougon, le plus grand quartier d'Abidjan, avec plus d'1 million d'habitants, déjà connu en temps normal pour ses maquis et son ambiance festive, promet de se surpasser aujourd'hui. Tous les aéroports, qu'il pleuve ou qu'il neige, lâche un homme arborant une chemise à l'effigie de l'ancien président. Laurent Gbagbo revient moins de 3 mois après son acquittement par la Cour pénale internationale à La Haye. Il avait été arrêté en avril 2011 après avoir contesté la victoire d'Alassane Ouattara à la présidentielle de 2010, ce qui avait plongé le pays dans une crise post-électorale qui a fait près de 3000 morts. Le président Ouattara a donné en avril son feu vert au retour de ce rival au nom de la réconciliation nationale.
Conférence de presse séparée du président américain Joe Biden et de son homologue russe Vladimir Poutine à l'issue de leur sommet à Genève hier. Les deux dirigeants ont évoqué des échanges constructifs et affiché leur volonté d'apaiser les tensions tout en restant avare en annonces concrètes. Le point avec Jacques Aristide.
Il n'y avait aucune animosité. C'était une discussion franche et directe, a dit le président russe après la rencontre, tandis que son homologue américain a fait état d'une tonalité positive. Le locataire de la Maison Blanche a tout de même déclaré avoir clairement mis en garde l'homme fort du Kremlin, en particulier sur les cyberattaques. Joe Biden indique avoir transmis à son homologue une liste d'infrastructures critiques qui sont à ses yeux intouchables. Il affirme également qu'il ne tolérera pas de tentative de déstabilisation des élections démocratiques. Joe Biden est d'avis que Vladimir Poutine ne cherche pas une guerre froide avec les États-Unis. Le président russe a lui indiqué avoir convenu avec le chef de l'exécutif américain du retour de leurs ambassadeurs respectifs, rappelés plus tôt cette année pour consultation. Le juge qu'un compromis sur un échange de prisonniers est possible. Les deux dirigeants se sont aussi mis d'accord sur un dialogue en matière de cybersécurité, un des contentieux forts entre les deux pays.
La Minute Éco, Jean-Roger Dion.
Le Botswana annonce la découverte d'un diamant de 1098 carats, soit le troisième plus gros diamant jamais trouvé dans le monde. Cette pierre découverte le 1er juin a été montrée au président botswanais Modwesi Masisi, à Gaborone, la capitale. Elle est considérée comme la troisième plus grosse de ce type trouvée en aide, a souligné Lynette Armstrong, la directrice de Debswana, la compagnie exploratrice détenue conjointement par le gouvernement et le diamantaire sud-africain De Beers. Au Nigeria, l'inflation portée par une forte augmentation des prix des biens alimentaires a fait basculer 7 millions de personnes dans la pauvreté, affirme un rapport de la Banque mondiale. La plus grande économie d'Afrique est entrée en récession l'an dernier du fait de la pandémie et de la chute des prix du pétrole, avant de renouer avec une faible croissance début 2021. Le premier groupe italien de construction WeBuild a signé un méga contrat de 16 milliards de dollars pour la construction d'une ligne de train à grande vitesse reliant Dallas et Houston dans l'État américain du Texas. Ce projet permettra d'introduire aux États-Unis la technologie du train à grande vitesse japonais Shinkansen, indique WeBuild dans un communiqué. Les futurs trains circuleront sur le tronçon entre Dallas et Houston à une vitesse inédite aux États-Unis de 320 km/h pour relier les deux métropoles en moins de 90 minutes.
Merci Jean-Roger. Et maintenant les sports avec Yakuba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Constant Omari n'est plus le président de la Fédération congolaise de football. Il a confirmé sa démission hier. Les précisions avec notre correspondant à Kinshasa, Valdosimo Yamba.
Je quitte la fédération, je deviens un citoyen lambda.
Et c'est un citoyen lambda peu ordinaire, puisque Constant Omari aura passé plus de 30 ans dans le mouvement sportif congolais, dont 18 en tant que président de la Fédération Congolaise de Football Association. Et aujourd'hui, l'homme décide de démissionner de son poste de président de la FECOFA, alors que son mandat court encore jusqu'en décembre 2021.
Je confirme au jour d'aujourd'hui ma démission au sein de la FECOFA. Et si, de là où je me trouverais, il pense que je peux faire quelque chose pour faire évoluer notre maire, il serait toujours disponible.
Une disponibilité nourrie notamment par les sentiments d'un travail bien fait et qui est en pleine évolution dans plusieurs secteurs au niveau de la FECOFA.
Je suis fier aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'en partant d'ici, les gens savent ce que c'est la FECOFA.
Autre satisfaction, c'est notamment les bons classements du championnat congolais au niveau africain, a-t-il fait savoir.
Quand vous allez dans le top 10 des championnats africains, au jour d'aujourd'hui, nous sommes 5e. Ça signifie que c'est un héritage qui ne cesse qu'à être développé et à être perfectionné.
Omar est parti, c'est désormais Chimanga, premier vice-président de la FECOFA, qui assume l'intérim jusqu'à la tenue prochaine des élections. Kinshasa, Valdosimo Yamba, VOA Afrique.
Des nouvelles de l'Euro, l'Italie est la première équipe à s'assurer une place en huitième de finale après son succès net hier contre la Suisse 3-0 à Rome, ce qui lui garantit à minima la deuxième place du groupe A. Dans cette même poule A, les Gallois y sont presque, malgré un pénalty raté de Gareth Bale, double passeur décisif par ailleurs. Le pays de Galles a pris une très belle option sur les huitièmes de finale en l'emportant 2-0 contre la Turquie à Bakou. Les Gallois sont deuxièmes du groupe avec 4 points derrière l'Italie. Cette deuxième journée de la phase de groupe a débuté hier par la courte victoire de la Russie face à la Finlande, 1-0, à Saint-Pétersbourg. À suivre ce soir, Ukraine-Macédoine, Danemark-Belgique et Pays-Bas-Autriche. Le défenseur central espagnol Sergio Ramos, 35 ans, quitte le Real Madrid, a annoncé le club dans un communiqué. Ramos, dont le contrat expire le 30 juillet, est le capitaine et l'un des joueurs emblématiques du club merengue, dont il porte le maillot depuis 2005 et avec lequel il a gagné notamment 4 fois la Ligue des Champions et 5 fois la Liga. Le club indique dans son communiqué qu'une cérémonie d'hommage et d'adieu aura lieu ce jeudi en présence du président Florentino Pérez et que le joueur donnera une conférence de presse à la suite.
Merci Yacoub. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sebouya. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine ont convenu ce mercredi de mener des discussions bilatérales sur le contrôle des armes et la cybersécurité, effectuant ainsi de modestes progrès lors d'un premier sommet, décrit comme pragmatique plutôt que chaleureux, et qui a entériné leur divergence sur un éventail de questions. Richard Conley, enseignant de sciences politiques à l'Université de Floride, analyse la rencontre sous la perspective de ce qui n'a pas été mis en avant.
Le plus grand problème pour moi, c'est pourquoi Biden et Poutine n'ont pas discuté la situation du virus et la situation de la Chine. Parce que c'est là où les deux ont indiqué, si je comprends bien, les deux ont indiqué c'est un sujet sur lequel on peut tomber d'accord, mais on n'a pas discuté ça. Et vous savez très bien qu'en Europe, aux États-Unis, en Afrique, en Inde, la situation du virus est peut-être le plus important de tous les sujets. Donc c'est un peu bizarre que les deux ne sont pas engagés sur ce sujet-là.
Le président Poutine et son homologue américain, le président Joe Biden, ont décidé d'ouvrir des consultations en matière de sécurité informatique. Ça vous paraît être la meilleure façon de sortir de ce sommet ou c'est juste renvoyer la question des cyberattaques au calendrier grec?
Le président américain, il dit si ça continue, il y aura des rebondissements, mais il n'a pas énuméré ce qu'il va faire. Il a dit non, le militaire, c'est pas quelque chose qu'on va engager. Le président Poutine, il dit que c'est pas nous, hein, c'est pas nous. C'est plutôt les pays en Amérique centrale ou dans le Sud-Amérique, je sais pas quoi. Mais comme Biden a dit, il va falloir attendre les actions de la Russie. On a eu l'attentat sur l'oléoduc dans le sud-est des États-Unis il y a quelques semaines. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que Vladimir Poutine, est-ce qu'il va faire quelque chose pour contrer ces sortes d'attentats? Il reste à voir.
Il n'y avait eu aucune animosité durant les échanges. Quels jalons doivent-ils poser maintenant pour un futur sans accrochage?
Enfin, le président Biden, il a dit que Vladimir Poutine, il veut éviter une guerre froide. Peut-être c'est vrai. Il paraît que les deux hommes ont discuté des choses d'une façon assez amicale. Comme le président Biden a dit, le dialogue, c'est important. Même si on s'entend pas vraiment sur les choses, on peut parler de Navalny, bien sûr, et c'est très important dans le développement démocratique de la Russie si on peut avoir une opposition. Mais on a aussi des Américains qui sont emprisonnés. Et il me paraît que le président américain n'avait pas vraiment une façon d'entrer dans une discussion du point de vue de puissance, parce qu'il a déjà approuvé tout ce que Poutine voulait en Europe. Donc c'est encore bizarre.
Le docteur Richard S. Conley, professeur de sciences politiques à l'Université de Floride, joint par Jean-Roger Bion.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Après 10 ans d'absence et entre les mains de la CPI, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo rentre ce jeudi en Côte d'Ivoire après son acquittement, un retour attendu par ses partisans. Beaucoup espèrent qu'il contribuera à accélérer le processus de réconciliation nationale. Pour une analyse sur le personnage de celui qui a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 10 ans, Abdourahman Dia a joint à Abidjan le docteur Bangali Ngoran, professeur d'histoire politique et relations internationales.
Donc là, l'un des rares hommes politiques avec les moyens de l'époque qu'il avait à avoir visité environ 3000 villages. Alors, c'est absolument extraordinaire pour cette époque déjà. Donc c'est déjà... Il s'est construit une réputation de l'homme du peuple, l'homme qui est proche du peuple. Au-delà de cet aspect du contact direct, il a été aussi cet homme qui, je dirais, a cassé l'image du politique en costard, qui est, disons, dans sa manière, sa façon de s'exprimer, qui se positionne dans la hiérarchie sociale au-dessus du citoyen lambda. Laurent Gbagbo a fait baisser ce standard-là dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de vivre, dans ses habitudes. Il a construit autour de sa personne l'image de quelqu'un qui était l'égal de l'Ivoirien lambda, qui, dans lequel il était en quelque sorte des vitrines du citoyen lambda, qui voyait en lui le fils d'un policier qui accédait à la présidence de la République la possibilité pour tous les Ivoiriens de pouvoir rêver. Et donc, il incarne en quelque sorte l'égalité des chances. C'est une valeur aujourd'hui qui sont des valeurs évocatrices.
Laurent Gbagbo va être reçu avec les honneurs au salon d'honneur et tout cela, mais Laurent Gbagbo en vivant en Côte d'Ivoire, comment est-ce que vous le voyez, surtout quand on parle de réconciliation nationale?
Laurent Gbagbo, de retour en Côte d'Ivoire, c'est deux grands enjeux de réconciliation nationale, évidemment pour son parti, mais aussi au niveau national. Et donc, on est sur le fait que l'arrivée du fondateur historique du parti ferait éventuellement bouger les lignes ou redonner donc un cadre de réunification à la machine politique du SPI. Ça, c'est au niveau de son parti. Au niveau de la Côte d'Ivoire, et donc on est resté donc figé dans le temps après près de 20 ans à cette division-là, qui a aussi des contours, qui a autant des contours régionalistes comme des contours ethniques. Et donc le fait que Laurent Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire et que le président de la République en fonction, qui est vu comme son entre guillemets son ennemi juré, s'implique dans son arrivée, donc démontre aujourd'hui que son retour sera enfin l'occasion de vider ce vieux contentieux. On espère que cela le sera à travers, je dirais, un cadre de concertation permanent entre les trois grands de la politique ivoirienne.
Laurent Gbagbo, est-ce que vous le voyez rester en dehors de la chose politique, sachant qu'il a fait de la politique pratiquement toute sa vie?
Non, c'est impossible. C'est impossible. Laurent Gbagbo est une bête politique. Une chose est sûre, aujourd'hui la question qu'il faut se poser, est-ce que Laurent Gbagbo vient en tant que candidat au prochain élection présidentielle ou il se met plutôt en posture, je dirais, de pareil, il se met en posture
d'arbitre,
je dirais, de faiseur de roi. Dans ces termes aujourd'hui, plutôt que le débat se pose, mais il est absolument impensable que Laurent Gbagbo se retire dans son village et qui se mine à un silence ou que de la vie publique.
C'était le docteur Bangali Ngoran de l'université Jean Lorugnon, Guédé de Daloa.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Burkina Faso, l'attaque de Solhan dans le Sahel il y a une semaine est toujours dans les esprits. Une attaque qui a fait polémique tant sur le nombre de victimes que sur un éventuel retour des assaillants quelques heures après la première attaque. Quant aux populations du Sahel, elles disent en avoir marre. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
147 personnes ont péri dans l'attaque de Solhan, selon le gouverneur du Sahel. Un chiffre plus élevé que celui du gouvernement qui faisait cas de 132 morts. C'est l'attaque terroriste la plus meurtrière de l'histoire du pays. Ces témoins de Solhan se souviennent de ces jours.
Vraiment, moi, je dormais. Je suis arrivé à 21h. Moi, quand je suis arrivé, j'entends. Je l'ai tiré, seulement moi, j'entends. Jusqu'à 3h du matin. Il a commencé à le tirer encore. Papara, jusqu'à 4h du matin.
Et comme si cela ne suffisait pas, les assaillants sont revenus le lendemain de l'attaque à Solhan. Cette fois-ci, ils ont pillé les commerces et saccagé le centre de santé. Ces retours des assaillants ont fait polémique. L'armée l'avait démenti dans un communiqué. Quant au CSC, le Conseil supérieur de la communication, il l'a brandi comme une fausse information justifiant l'audition de plusieurs médias et la suspension de Radio Omega, l'une des plus grandes radios du pays. Youssouf Issou, l'adjoint au maire de Solhan.
Ils ont brûlé notre CSS. Le premier jour, ils n'ont pas brûlé le CSS. C'est nous qui sommes sur le terrain qu'on a su qui sont le...
Après avoir été contredit par plusieurs témoins, l'armée qui avait juré que les assaillants n'étaient pas revenus garde le silence. Et cette situation sécuritaire difficile a amené les populations du Sahel dans les rues le week-end dernier.
J'ai perdu beaucoup de parents au Solhan. On a ras le bol, on est fatigué. On demande à ce que le gouvernement quand même agisse.
On se sent délaissé, on se sent seul. On se sent marginalisé, sans décès, sans cadavre. Et le gouvernement est là calé.
Il y a mon neveu, Aziz Dindo, qui a été tué. Ce qui nous fait mal, on n'a même pas pu voir le corps de nos enfants.
Ali Bokoum, président du Conseil régional des jeunes du Sahel, l'un des organisateurs de la marche.
Les 13 régions de notre pays, la région du Sahel est celle qui est la plus donc affectée par cette question d'insécurité. Nous avons le nombre de déplacés internes le plus élevé, le nombre d'écoles le plus fermées le plus élevé. Nous avons même l'absence de l'administration dans plusieurs communes de notre région. Aujourd'hui, on peut dire que franchement, nous sommes fatigués de l'insécurité.
Les analystes s'interrogent toujours sur l'attaque de Solhan. Pazien est juriste et analyste politique.
Est-ce que nous sommes à la hauteur de cette tâche? Est-ce que les stratégies, les moyens qui sont mis à la disposition de nos FDS sont à la hauteur de la tâche? Est-ce que l'organisation sécuritaire, l'organisation de la défense est à la hauteur de la tâche? Parce que c'est très difficile d'accepter cela, d'accepter tant de morts. Quel était le dispositif de riposte qui a été mis en œuvre pour éviter qu'il y ait ce massacre quand on sait qu'il y avait un détachement de l'armée à 12 km du lieu du forfait?
Comme toujours, le gouvernement continue de rassurer les populations que des actions sont menées pour venir à bout du terrorisme. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
En l'espace de quelques jours, le Mali a perdu de grands artistes. Tata Bambo Kouyaté, décédé lundi dernier, et avant cette disparition, celle de la comédienne Hélène Diarra et du jeune humoriste Ronald Guindo. Notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko, revient sur le parcours de ces artistes.
De son vrai nom, Fatoumata Kouyaté, celle qui était connue des Maliens par le nom de Tata Bambo Kouyaté, a définitivement rangé son micro le lundi 14 juin. Cette icône de la musique mandingue a vécu ses heures de gloire dans les années 60, 70, 80 et 90. Celle qui, la première à chanter le mariage libre entre deux personnes qui s'aiment, dans une période où les mariages étaient décidés par les familles, part en laissant derrière elle un répertoire riche, une relève composée de ses filles, mais aussi de nombreux proches inconsolables, comme Cheikh Bengue Sissoko, qui l'accompagnait avec son tama lors de ses cérémonies.
Nous avons perdu une grande cantatrice de la musique malienne, Tata Bambo Kouyaté. À chaque cérémonie de baptême, de mariage, Tata Bambo, elle m'appelle. Je viens jouer le tama avec elle. Elle a beaucoup aimé mon travail. C'était la maman de tout le monde. C'était la maman du bon cœur. C'était la maman de joie.
Quelques jours avant son décès, le 10 juin, c'est une autre figure du théâtre malien en la personne de Hélène Diarra qui quittait définitivement les planches et les plateaux de tournage. Avec plus de 30 ans de carrière, elle aura joué dans tous les films de Cheikh Oumar Sissoko et de Souleymane Cissé. Le réalisateur Boubacar Sidibé, avec qui elle a aussi beaucoup travaillé, retient la grande actrice qu'elle fut.
Elle a joué avec moi Les aventures de Seko, qu'on appelle le film de Guimba. Elle a joué dans beaucoup de films, des films de sensibilisation, des sketchs, des trucs-là que j'ai eu à faire. Elle pouvait faire tout. Hélène, elle pouvait faire la méchante, elle pouvait faire la bonne, elle pouvait faire la gentille, ainsi de suite. Mais c'est une perte immense pour notre théâtre et pour notre cinéma. Elle était dans beaucoup d'associations et elle militait beaucoup pour la promotion du théâtre et du cinéma.
Le 6 juin, c'est une étoile montante de l'humour malien, Mohamed Moussa Guindo, connu sous le nom de scène de Ronald Guindo, qui rendait l'âme à l'hôpital Luxembourg où il était hospitalisé pour des problèmes cardiaques. Le dogon qu'il était savait imiter, un art qu'il mettait au service de la paix et de la cohésion entre les communautés. Souri Diakité, connu sous le nom d'artiste de saccharose buccale agréable, slammer, retient de l'homme, un acteur engagé pour la paix au Mali.
Avec la mort de Ronald Guindo, nous ne perdons pas seulement un ami artiste, nous perdons un talent. C'est un véritable talent, surtout un talent engagé pour la consolidation de la paix et pour l'extinction du conflit qu'on essaye d'instaurer entre les Peuls et les Dogons. Ronald, avec tout ce qu'il avait comme talent, il a mis ces talents-là au service de la cohésion sociale.
Le Djelia pour magnifier le Mali et les Maliens, éduqués par le théâtre, sensibilisés en faisant rire, telle était la mission dignement accomplie par ces artistes décédés. En si peu de temps, le Mali a beaucoup perdu. Mohamed Danyoko, VOA, Bamako.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde d'aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com
Visitez nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.